Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Xavier Sartre.
Journée particulière au Vatican ce mercredi décembre avec deux moments particuliers pour Benoît XVI. Le pape a participé tout d'abord à son avant-dernière audience générale, une audience empreinte d'émotion lors de laquelle il a rappelé qu'il avait renoncé son ministère en pleine liberté pour le bien de l'Église. Ensuite, en fin de journée, il a présidé la messe des cendres qui ouvre le carême. Nous reviendrons bien évidemment longuement sur cette audience avec la catéchèse en français centrée sur la signification du carême. Nous verrons également que l'ambiance lors de cette audience y était particulière. Autre moment fort de cette journée, je vous le disais, la messe des cendres célébrée cette année en la basilique Saint-Pierre afin d'accueillir toutes celles et ceux qui ont voulu saluer le pape avant son retrait. La renonciation de Benoît XVI soulève de nombreuses questions d'ordre organisationnel. Le père Lombardi a fait le point sur le programme du pape et du Vatican lors de ces prochaines semaines. Nous verrons également ce que signifie cette renonciation avec un prêtre français. Bienvenue dans le magazine de Radio Vatican. Premier rendez-vous public de Benoît XVI ce mercredi, l'audience générale. Une audience très particulière, pleine d'émotions ce mercredi matin, salle Paul VI au Vatican. Benoît XVI retrouvait les fidèles pour la première fois depuis l'annonce de sa renonciation lundi. Une audience inédite donc dans l'histoire de l'Église. Devant plusieurs milliers de pèlerins, le pape, visiblement ému, a commencé cette traditionnelle rencontre en revenant d'abord sur sa décision. Des explications entrecoupées de longs applaudissements d'une foule émue comme le pape, Benoît XVI, au début de l'audience.
Cari fratelli e sorelle, come sapete, ho deciso...
Chers frères et sœurs, comme vous le savez, j'ai décidé.
Grazie per la vostra simpatia.
Merci pour votre sympathie.
Ho deciso di rinunciare al ministero che il Signore mi ha affidato il 19 aprile 2005.
J'ai décidé de renoncer au ministère que le Seigneur m'a confié le 19 avril 2005. J'ai fait cela pleinement libre pour le bien de l'Église, après avoir prié longuement et avoir examiné devant Dieu ma conscience, sachant la gravité d'un tel acte, mais tout aussi conscient de ne pas être en mesure de conduire le ministère pétrinien avec la force que cela nécessite. Me soutient et m'illumine la certitude que l'Église appartient au Christ et que le Christ ne manquera jamais de guider l'Église et de lui prodiguer ses soins. Je vous remercie tous pour l'amour et la prière avec laquelle vous m'avez accompagné.
Con cui mi avete accompagnato. Grazie.
Merci. J'ai senti presque physiquement en ces jours pour moi difficiles la force de la prière, l'amour de l'Église. Votre prière me porte. Continuez de prier pour moi, pour l'Église, pour le futur pape. Le Seigneur nous guidera.
Et donc le pape a rappelé qu'il avait renoncé au ministère que le Seigneur lui avait confié en pleine liberté et pour le bien de l'Église. Il a rappelé qu'il n'était plus en mesure d'accomplir le ministère pétrinien avec la force qu'il demande. Après cette mise au point, Benoît XVI a ensuite délivré sa catéchèse, comme d'habitude. Une catéchèse bien évidemment consacrée au carême qui commence en ce mercredi décembre. 40 jours qui nous préparent à la célébration de la Sainte Pâque. Une catéchèse que le pape a résumée en français.
Chers frères et sœurs, nous commençons aujourd'hui le carême. 40 jours de préparation à Pâques. Le nombre 40 revient plusieurs fois dans la Bible. Dans cette catéchèse, je voudrais m'arrêter sur les 40 jours que Jésus a passés au désert, tenté par le démon. Cette tentation invite chacun de nous à répondre à cette demande fondamentale. qu'est-ce que compte vraiment dans ma vie? Sans une réponse à la fin des vérités de Dieu, l'homme ne peut pas se sauver. Ce n'est pas le pouvoir mondain qui sauve le monde, mais le pouvoir de la croix, de l'humilité et de l'amour. Dieu est le Seigneur de toutes choses. Il ne peut pas être instrumentalisé, utilisé pour nos propres intérêts. Autrement, nous nous substituons à lui. La société actuelle soumet le chrétien à plusieurs épreuves qui touchent sa vie personnelle et sociale. La tentation est toujours présente de sa crise éclipse. Et toutefois, la grâce de Dieu continue d'opérer des merveilles dans la vie de beaucoup de personnes qui se convertissent ou qui reviennent à Dieu. Se convertir, c'est faire de telle sorte que la vérité, la foi en Dieu et l'amour deviennent chaque jour la chose la plus importante pour nous. En ce carême, je vous invite à renouveler vos engagements, prie pour votre conversion. Pour y arriver, ne vous laissez pas envahir par l'égoïsme, la recherche exclusive du succès personnel, l'illusion, l'apparence et les choses matérielles. Donnez plutôt la primauté à Dieu. Confiez-vous à lui et regardez-le avec ses yeux.
Et comme c'est désormais de coutume, le pape a envoyé un tweet à l'issue de l'audience. Au début de ce temps du carême, renouvelons notre engagement à la conversion en donnant plus de place à Dieu, a-t-il écrit. Présent à cette audience générale, avec des milliers de fidèles, Antonino Gallofaro, il a pu vivre avec les pèlerins ce moment fort et inédit. Reportage.
Une heure avant l'audience générale, déjà, la foule s'entasse devant les contrôles de sécurité pour rentrer en salle Paul VI au Vatican. Une heure plus tard, à l'intérieur, tous se lèvent, ovation pour le pape quand il rentre. Puis il prend la parole.
Ho deciso di rinunciare al ministero che il Signore mi ha affidato il 19 aprile 2005.
Benoît XVI a rappelé devant les fidèles sa décision de démissionner. À la fin de l'audience, une nouvelle ovation dans une salle Paul VI comble, beaucoup d'émotions, de larmes, tout comme à l'extérieur.
J'ai été émue. J'avais jamais vu le pape.
Benoît XVI, je l'ai trouvé serein, comme d'habitude. C'est un grand monsieur, il faut le dire ainsi.
Cette Américaine est impressionnée par toutes les cultures présentes et par l'enthousiasme envers le pape. Beaucoup de fidèles sont venus le remercier, comme cet abbé sénégalais, étudiant en droit canonique.
Comme d'habitude, le pape nous a encore une fois donné des paroles très fortes, nous invitant à nous concentrer sur l'essentiel, c'est de pouvoir porter sa croix. Le pape Benoît XVI a porté sa croix, il allait jusqu'au bout. Et c'est une leçon d'humilité qu'il nous donne aujourd'hui en prenant librement cette décision de renoncer à son pontificat.
Avec cette audience générale, c'était la première fois que le pape s'adressait aux fidèles depuis sa renonciation. La dernière audience générale, le mercredi 27 février, ce sera l'occasion pour Benoît XVI de faire ses adieux.
Un reportage signé Antonino Gallofaro. Autre moment fort de cette journée si particulière, la messe des cendres qui est la cérémonie traditionnelle d'entrée en carême. Vu les circonstances exceptionnelles, la messe s'est déroulée en la basilique Saint-Pierre et non en la basilique Sainte-Sabine, située sur la colline romaine de l'Aventin et qui, traditionnellement, accueille le pape en ce premier jour de carême. Beaucoup de fidèles et de cardinaux ont exprimé le désir d'y participer, d'autant que ce fut la dernière grande concélébration publique de ce pontificat. Le contexte particulier n'a cependant rien changé au déroulement de cette célébration qui a commencé par une procession pénitentielle et qui a été marquée par le rite de l'imposition des cendres. Retour sur cette messe des cendres avec Romida Ferrotto.
La dernière grande concélébration publique du pontificat de Benoît XVI aura été, loin de tout triomphalisme, l'austère cérémonie d'entrée en carême, la messe des cendres, avec sa traditionnelle procession pénitentielle. Fidèle à lui-même, le pape n'a pas dressé le bilan de son propre pontificat. Alors que ses faits et gestes sont scrutés à la loupe, il n'a pas donné de consignes. Benoît XVI a parlé de l'importance de la communion ecclésiale et du témoignage authentique, en invitant les fidèles à revenir à Dieu de tout leur cœur, des thèmes qui ont dominé son pontificat. Les cardinaux présents à Rome avaient tenu à concélébrer avec le pape. Les fidèles très nombreux avaient commencé à converger dès la mi-journée vers la basilique Saint-Pierre. Dès le début de son homélie, le pape a évoqué le caractère exceptionnel de cette célébration. Alors qu'il se prépare à conclure son ministère de pape, il a demandé aux fidèles de prier pour la vie de l'Église en cette période si particulière.
Per me una occasione propizia per ringraziare tutti.
Le Saint-Père a dit merci, surtout aux fidèles du diocèse de Rome, et il a demandé qu'on se souvienne de lui dans la prière.
Ricordo nella preghiera.
Commentant les lectures de la messe, Benoît XVI a regretté une fois encore que le visage de l'Église ait été défiguré. Il a évoqué les péchés contre l'unité de l'Église et les divisions au sein du corps ecclésial. Il a dénoncé l'hypocrisie religieuse de ceux qui ne recherchent que les honneurs et la gloire. Il a invité les catholiques à profiter du carême pour vivre plus intensément la communion ecclésiale en surmontant les individualismes et les rivalités, à ne pas se limiter à dénoncer les scandales et les injustices des autres, mais à agir sur leur propre cœur et conscience, en permettant au Seigneur de les renouveler et de les convertir. C'est le témoignage qu'il faut offrir aux indifférents et aux non-croyants. Parmi ceux qui ont reçu les cendres des mains du pape, trois hommes qui seront appelés à d'importantes responsabilités dans les jours à venir pendant la vacance du siège apostolique. Le doyen du Sacré Collège, le secrétaire d'État qui est également camerlingue et le cardinal protodiacre qui annoncera au monde l'élection du nouveau pape. Une situation inédite du jamais vu dans l'histoire de l'Église.
Un sujet préparé par Romilda Ferrotto. Un peu partout dans le monde, les réactions sont nombreuses. Certains approuvent, d'autres restent plus sceptiques. Le patriarche de Cilicie des Arméniens catholiques, Nerses Bedros XIX, a lui tenu à remercier Benoît XVI via une lettre. En décidant votre renonciation à cette même charge pour des raisons de santé, vous nous avez montré l'importance du discernement de la volonté de Dieu et le courage d'y répondre. Le patriarche salue le travail accompli en matière d'écuménisme et souligne la patience et la sagesse évangélique pour traiter les problèmes moraux qui sèment l'ivraie dans l'esprit des personnes non avisées. Il rend hommage également au théologien qu'est Benoît XVI, évoquant les paroles pénétrantes ainsi que les réflexions spirituelles éclairantes. Plus modestement, le père Ludovic Danto, qui a vécu à Rome pendant de nombreuses années et qui est maintenant maître de conférence à l'Université catholique de l'Ouest à Angers, en France, revient sur cette décision du pape, tout à fait respectable selon lui, et nous explique pourquoi.
J'ai été un peu sonné, comme tout le monde, parce que c'était vraiment inattendu. Et puis surtout, je veux dire, ça m'a un peu amusé parce que lorsque je commentais à mes étudiants le canon qui parle de la renonciation au souverain pontificat, je le commentais un peu de manière très hypothétique en disant que ça avait été très rare dans l'histoire et qu'on n'en avait pas d'exemple plus que cela existait, mais que c'était presque un canon pour faire joli. Et donc là, véritablement, c'est une sorte, comme l'a très bien dit d'ailleurs le cardinal Sodano hier, c'est un coup de tonnerre. Personne ne s'y attendait, on ne peut même pas imaginer que des gens aient fait pression sur lui. Ça, c'est pour moi, c'est très important. C'est l'absence totale de pression extérieure qui rend sa renonciation complètement adéquate avec l'esprit du droit canonique. Vous savez qu'à la fin du pontificat de Jean-Paul II, un certain nombre de personnes réclamaient sa démission. Bien, je crois que justement là, le fait même que des gens réclamaient la démission du Saint-Père rendait quasiment sa renonciation impossible. Car on aurait toujours pu dire « mais il a renoncé suite à des pressions, suite à des cabales ou je ne sais quoi ». Alors que le fait que personne ne demandait, au jour d'aujourd'hui en tous les cas, personne ne demandait la démission de Benoît XVI, rend sa démission complètement libre. Et il me semble qu'il faut que ce soit ça que les chrétiens comprennent, c'est que ce n'est pas la porte ouverte demain à une demande de démission. Parce que je crois même qu'à partir du moment où on demande la démission du pape, on la rend quasiment impossible.
On présente maintenant, en tout cas, ce n'était pas le cas il y a quelques années, le pape Benoît XVI comme un réformateur, comme un progressiste en ayant justement pris cette décision. Est-ce que vous le voyez comme ça, de cette façon-là, vous aussi ?
Pas directement. Ce qui me frappe pour moi, et d'ailleurs on le voit à travers la réaction de beaucoup de journalistes, c'est que l'acte de renonciation démontre la grandeur de l'homme. C'est-à-dire que cet homme qui a quand même connu beaucoup de contestations, qui a été montré du doigt parfois, en tous les cas, qui n'a pas toujours été très compris, je crois n'a pas été jugé à sa juste valeur, et je pense que c'est un homme d'une haute stature morale, et que la renonciation, c'est quand même pour lui aussi un saut dans l'inconnu, parce que il va vivre désormais dans un couvent, d'après ce qu'il nous est dit, dans le couvent du Vatican, c'est-à-dire il va disparaître complètement. D'ailleurs, c'est la seule possibilité qui lui reste, d'une certaine manière, pour ne pas gêner son successeur, c'est de disparaître complètement. Donc ça suppose une grandeur d'âme, une haute stature morale, beaucoup d'humilité, qui ne peuvent que, quelle que soit après l'appréciation qu'on peut faire sur l'opportunité ou non d'une renonciation d'un pape, ça ne peut que forcer l'admiration et jeter peut-être une autre lumière sur son pontificat et sur ses décisions. C'est-à-dire que bien souvent, Beaucoup de gens prennent les décisions pontificales comme étant de la pure politique ou une pure imposition de la part de celui qui gouverne. Là, je crois qu'on ne pourra pas lire les actes qu'il a posés sans se dire qu'il n'a pu les poser que en conscience et qu'avec une haute stature morale.
Cette place, justement, de, entre guillemets, excusez-moi l'expression, mais de pape émérite, est-ce qu'elle existe dans le droit canon ?
Non, non. D'ailleurs, il n'y a rien à ce sujet-là, puisque c'était presque une hypothèse d'école jusqu'à présent. En doctrine, on ne dit rien. La seule chose qui est certaine, dans les exemples historiques que nous avons, c'est que la personne qui renonce doit complètement disparaître, parce qu'elle ne peut en aucun cas gêner son successeur. L'humilité caractérise Benoît XVI, et je pense que l'abdication, finalement, nous pousse dans l'humilité, et puis finalement, comme ça a lieu en carême, je pense que c'est vraiment un chemin de dépouillement et de grande humilité.
Des propos recueillis par Anthony Torzek. Alors, bien sûr, la renonciation du pape qui reste inédite suscite bien des questions d'ordre organisationnel. Tout d'abord, le père Lombardi, directeur de la salle de presse du Saint-Siège, a donc tenu à faire un point sur les prochains événements qui se dérouleront au Vatican ces prochains jours et ces prochaines semaines. Les détails avec Bernard de Cotigny.
Tout d'abord, les dates du prochain conclave. Selon le père Lombardi, si tout se déroule sans problème, il devrait débuter à partir du 15 mars. Mais la date reste du ressort des cardinaux qui se réuniront au préalable en congrégation générale. Ces réunions ont notamment une fonction importante de conversation et d'échange sur les problèmes et la situation de l'Église, de manière à faire ressortir des critères en vue de l'élection du nouveau pape. En attendant, le pape assumera les rendez-vous pris de longue date, comme les deux entretiens prévus en fin de semaine avec les présidents roumains et guatémaltèques. Benoît XVI s'entretiendra en privé samedi également avec le président du Conseil italien des missionnaires et avec le président italien la semaine prochaine. Il rencontrera aussi les évêques italiens de Lombardie et de Ligurie en visite ad limina, parmi eux le cardinal Bagnasco, président de la conférence des évêques italiens, et le cardinal Scola, l'archevêque de Milan. Le moment fort de ces deux prochaines semaines, outre les exercices spirituels de carême avec la curie, sera la dernière audience générale, place Saint-Pierre, audience durant laquelle Benoît XVI fera ses adieux aux fidèles. Le lendemain, dernier jour de son pontificat, il saluera les cardinaux le matin avant de prendre à 17h un hélicoptère qui l'emmènera à Castel Gandolfo. Le pape s'envolera alors vers une nouvelle vie. Reste à trouver la manière dont on s'adressera à lui. Pour l'heure, le Vatican ne sait pas.
Bernard de Cotigny. Et ultime information donnée par le père Lombardi, la nomination de Mgr Giuseppe Ciacca, secrétaire général du gouvernorat de l'État de la Cité du Vatican, comme auditeur général de la Chambre apostolique, un rôle clé dans la logistique du conclave. L'activité du pape ne s'arrête pas, on l'a vu avec le père Lombardi, exemple aussi avec ce message adressé par Benoît XVI à l'IFAD, le Fonds international de développement agricole dont le Conseil des gouverneurs est réuni à Rome ce mercredi et ce jeudi. Cette rencontre est consacrée à la force des partenariats pour réduire la pauvreté et garantir la sécurité alimentaire chez les communautés rurales dans le monde. C'est Mgr Mamberti, secrétaire pour les rapports avec les États, qui a lu ce message. Benoît XVI y salue et encourage l'action de l'IFAD, tout particulièrement la méthodologie suivie par l'organisation qui fait passer le développement durable avant la seule assistance. Cette action, poursuit le pape, montre qu'une logique inspirée par le principe de gratuité et de la culture du don peut trouver place à l'intérieur de l'activité économique normale. Et de citer les programmes menés en Afrique ou auprès des communautés indigènes. Benoît XVI salue également l'attention à la personne dans sa dimension individuelle et sociale, dans la droite ligne de ce que défend l'Église. Cette attention, considère le pape, sera la plus efficace si elle est réalisée à travers des formes d'associations, de coopératives et de petites entreprises familiales qui soient mises en mesure de produire un revenu suffisant pour un niveau de vie décent. Benoît XVI ne manque pas non plus de rappeler que l'aide aux paysans les plus pauvres est plus nécessaire que jamais et pointe du doigt le manque de générosité des donateurs habituels. En ce moment, les ressources dont la coopération internationale a besoin de façon évidente restent très modestes et les pays les plus avancés motivent la baisse de leur apport par une disponibilité réduite. Mais à bien voir, poursuit le pape, interrompre l'effort de solidarité au motif de la crise peut cacher une certaine fermeture aux nécessités d'autrui, prévient-il. Voilà, c'est la fin de ce magazine. Merci de votre attention et de votre fidélité. On se retrouve demain, même lieu, même heure.